Et bonjour, moi je vais vous présenter aujourd'hui PyPy, c'est l'interpréteur Python qui est écrit en Python. Et étant donné que c'est un sujet assez pénible et que j'aime pas parler tout seul devant plein de personnes, bah, j'ai inventé une méthode pour vous faire poser des questions, c'est que j'ai apporté du vrai Python, que mon assistant va préparer, faites. J'ai également des fraises Tagada pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, pas de problème. Et également d'autres bonbons pour ceux qui sont intéressés. Par contre, je vous préviens tout de suite que ce sera que les questions pertinentes. Si on me demande par exemple où est-ce que j'ai acheté ma chemise, ce sera pas ça marchera pas quoi.
La corruption.
Donc PyPy, on va voir ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un interprète Python qui est écrit en Python.
En fait, tu pourrais préparer tout de suite un ou deux verres.
Tant qu'à faire. Donc c'est le seul interprète à part C Python bien sûr qui est compatible 100% avec Python 2.4 parce que il y en a sûrement qui connaissent Jython ou bien Iron Python ou il y en a encore qui bossent ou Paro mais il y en a aucun qui est capable d'exécuter 100% des programmes. En disant que là c'est le langage de base qui est implémenté, il y a aussi beaucoup de bibliothèques. Donc c'est tout à fait possible aujourd'hui d'exécuter vos programmes Python dans PyPy. Donc un des buts de PyPy, c'est d'expérimenter des technologies, c'est-à-dire on verra après que on pourra tester différents ramasse-miettes, différentes manières de stocker les entiers, etc. Et pour couper court tout de suite à tous les trolls, c'est les applications sont 1,5 à 3 fois plus lentes que ces Python, c'est-à-dire que Python est déjà lent, là c'est encore plus lent, mais c'est un facteur qui est quand même assez faible, 1,5 à 3 fois, c'est quand même supportable quoi. Et on va voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont apportées et qui valent le détour. Donc une des motivations du projet, c'est d'étendre l'implémentation de Python. C'est-à-dire que C Python, il est écrit en C, il est très difficile à faire évoluer, parce que le C, c'est difficile, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de dictionnaire, c'est assez difficile de changer les choses. Et ils veulent aussi améliorer les performances, donc là ils n'ont pas encore atteint leur but, c'est encore 3 fois plus lent, sachant que la toute première implémentation de PyPy elle était 10 000 fois plus lent. Ça va, il y a pas mal de boulot quand même qui a été fait. Ajouter l'expressivité, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir rajouter des fonctionnalités à la syntaxe du langage. Par exemple, il y a un travail qui a été fait pour la programmation logique, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de la programmation logique comme prologue avec PyPy, c'est-à-dire en écrivant du Python. Et faciliter le portage, ben c'est simple, aujourd'hui c'est Python, ça marche uniquement sur des plateformes qui supportent le C. Et Jython, c'est un projet à part qui gère Java. Iron Python, c'est pour .NET. Et là, PyPy est déjà capable d'être compilé en C et d'être compilé pour la JVM et d'être compilé pour .NET. Donc la version actuelle, c'est moins bien supporté sur Java et .NET, mais ça fonctionne. Il n'y a toujours pas de questions, pas d'intéressés pour le Python. Pourquoi ne pas faire évoluer C Python? C'est assez simple, disons que c'est du code C, comme je disais, il faut gérer manuellement l'allocation de mémoire, il y a très peu de types, la portabilité est limitée. Et disons d'une manière générale qu'un interprète écrit en Python, il est plus petit, donc c'est plus simple de faire évoluer le code. Donc il existe déjà les projets Psycho et Stackless. Psycho qui gère la compilation à la volée qui permet de gagner énormément de performance sur des codes simples, c'est-à-dire surtout les calculs sur des entiers, comme calculer des Fibonacci, ce qui est très pratique dans la vie courante. Et également Stackless qui est une version spéciale de Python pour gérer les coroutines. On reviendra dessus après. Ouais, c'est un peu difficile à expliquer tout de suite. Oui, il faudrait passer un micro par contre derrière. Ou bien je répéterai la question sinon dans le mien.
Non, mais, question très bête, mais quand même. Non, mais je comprends pas l'intérêt de. Enfin, je suis sûr qu'il y a l'intérêt, mais je vois pas tout à fait. On a déjà Python, et là, tu me donnes un autre Python qui tourne sur Python. Enfin,
il tourne pas sur Python, en fait. Il est compilé ensuite en C, et il devient indépendant de C Python. Les premières versions étaient indépendantes de C Python, mais sinon, c'est très une bonne manière d'obtenir un Python, t'as gagné. Mais j'expliquerai un peu plus en détail dans la suite de la présentation les intérêts qu'il y a.
Parce que ça permettrait mieux de comprendre le... Merci beaucoup. question gratuite. Mais ça me permettrait mieux de suivre le de savoir pourquoi. Enfin, je ne comprends pas tout à fait pourquoi.
Mais c'est la question que tout le monde se pose.
Ok.
À quoi ça sert?
Voilà.
En fait, c'est un projet financé par l'Union européenne. Je sais pas, ils avaient envie de coder. Ils ont dû trouver ça rigolo d'écrire un attrapeur de Python écrit en Python.
Moi, je veux bien qu'écrire un Python en Python soit plus simple. Par contre, le compilateur Python versé, je pense qu'elle va être là, la difficulté du coup.
Et c'est le compilateur comment ?
Python versé. Parce qu'il y a un moment, tu dis, on écrit Python en Python, puis après, on se dédouane du premier Python et on balance ça vers du C. Ça, du coup, c'est pas un peu repousser le problème, c'est-à-dire j'écris un interpréteur Python en Python qui est simple à maintenir, mais oui. Après, il faut que je me panne le compilateur Python versé qui, lui, va peut-être être un peu moins simple à maintenir.
Disons qu'en fait, PyPy, il n'est pas vraiment ciblé Python en Python. Ils appellent ça un framework pour développer des machines virtuelles ou pour développer des interprètes. C'est-à-dire qu'en entrée, il accepte Python, mais on verra qu'il accepte aussi JavaScript, il accepte aussi Prolog comme langage source. Et comme destination, il supporte le C, mais il supporte aussi LLVM, il supporte CLI, .NET, il supporte la JVM. Et disons qu'il y a des outils très très haut niveau pour gérer facilement des backends. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui est refait en double à chaque fois pour chaque backend. Et c'est vraiment le but, c'est de monter en haut niveau pour faciliter les portages. Parce que le problème qu'il y avait avec ces Python, c'est qu'il y avait un seul backend, c'était le C.
Et finalement, c'est un compilateur de langage haut niveau vers un langage haut niveau.
C'est un petit peu ça, c'est un traducteur d'un langage vers un autre.
Avec le principe front-end back-end comme n'importe quel compilateur, genre GCC qui prend CC++ et qui balance.
GCC justement a été très souvent critiqué parce qu'il est immaintenable et il est super compliqué.
Ouais, il est super compliqué, mais il y a quand même cette volonté, enfin, ou compilateur moderne où on a des front-end avec des langages et des langages bas niveau. Et là, PyPy sera avec les langages au niveau de la back-end, c'est ça?
Ben, ça peut aussi être. Il y a aussi une compilation de Python vers JavaScript. Et JavaScript, c'est quand même déjà un langage haut niveau.
Oui, c'est ce que je dis.
Donc
c'est,
ça gère un petit peu tout et n'importe quoi comme backend derrière. Quoi. Okay. Et c'est selon le backend qu'on va choisir qui va activer ou non certaines fonctionnalités, comme l'allocation manuelle de la mémoire ou pas.
Ok.
Tu peux venir chercher ton verre aussi si tu veux.
Oui. Je voudrais savoir, est-ce que ça va nous permettre de full compiler des programmes en Python?
Ça, c'est une bonne question et en fait, on verra après que les questions viennent un peu trop vite, là, à la limite. PyPy, il n'est pas écrit en Python, il est écrit en RPython, qui est un sous-ensemble très limité. C'est-à-dire que, par exemple, on peut mettre qu'une seule valeur, qu'un seul type dans une variable, qu'on ne peut pas changer le type d'une variable. L'allocation de mémoire est plus ou moins explicite. Il y a pas mal d'autres contraintes et c'est seulement ce sous-ensemble qui peut être compilé par l'ensemble PyPy. En fait, la finalité, c'est que l'interprète tourne sur JavaScript, mais on ne pourra pas compiler n'importe quel programme en JavaScript derrière. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. C'est l'interprète, c'est la partie qui exécute le Python, ce n'est pas le Python lui-même qui va être traduit. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Ce sera peut-être plus clair un petit peu après. Oui, encore une autre question, mais après, on va arrêter sur cette slide, on va avancer un peu.
Il y a quelque chose qui est très éloigné de ce que tu as cité au début. Au début, tu as cité JITON et Island Python. Et en fait, ce sont deux façons en fait, de récupérer le monde mono ou le monde Java. En fait, PyPy, en fait, c'est très orienté sur Python, donc sur lui-même. Enfin, je ne comprends pas bien alors, du coup, le rapprochement avec JITON et Island Python.
La finalité, c'est pour le back-end JVM, c'est quand même de pouvoir exécuter, de faire des mélanges entre le Java et le Python, de pouvoir échanger des objets, pouvoir importer des modules Java en Python, etc.
Ah, d'accord.
Et pareil pour le .NET, le but c'est de mélanger plein de langages différents, de pouvoir récupérer des objets en Visual Basic, les réexporter en Python et faire des échanges dans les deux sens. Quoi. Il me semble qu'ils n'ont pas encore, dans le cadre de PyPy, ils n'ont pas encore eu le temps de tout coder, mais ce sera la finalité. Quoi. Donc c'est pas un monde fermé Python, justement, c'est toujours beaucoup d'échanges avec les autres plateformes et les autres langages.
Merci.
Il faudrait un service qui fasse la livraison des picons. Oui, et ce qu'il y a aussi, c'est que Python, c'est un interprète qui a une dizaine ou une quinzaine d'années. Il a été écrit avec la technologie des années précédentes et entre-temps, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur les ramasse-miettes. Ben dans la JVM, ils ont fait beaucoup de travail sur la gestion de la mémoire et il y a plein de choses qui ont évolué. Et PyPy, justement, il veut éradiquer des vieux défauts de ce type-là, comme par exemple la manière de gérer les compteurs de référence. C'est-à-dire qu'en C Python, il faut manuellement incrémenter et décrémenter un pointeur et un compteur de référence, et on ne peut pas du tout changer ça. Et dans PyPy, on verra qu'on peut complètement changer. Donc qu'est-ce que c'est qu'un interprète Python? C'est un petit peu pour répondre à la question qu'on m'avait posée avant. Ce n'est pas vraiment le Python qu'on va traduire dans un back-end, c'est l'interprète lui-même. Donc qu'est-ce que c'est qu'un langage interprété? C'est un script Python qui est compilé en bytecode.pyxc, et c'est ce bytecode qui va servir comme source par la machine virtuelle. Alors, on appelle ça un interprète, une machine virtuelle, pour moi c'est un petit peu pareil. Donc pour vous citer d'autres exemples, c'est la JVM qui va exécuter le bytecode JavaScript. Il y a Visual Basic aussi, qui a une machine virtuelle, donc il y a du bytecode et qui exécute une instruction après l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas directement du code machine qui est exécuté, mais du bytecode. Pour moi, PyPy, c'est un projet fédérateur parce qu'il vise à récupérer les fonctionnalités du projet Jython, qui est très utilisé dans le milieu de la recherche, de l'intelligence artificielle. Et également Iron Python, qui est sponsorisé par Microsoft, qui vise à ramener des programmeurs Python vers leur ensemble .NET. Et Stackless, qui est les coroutines que je vais présenter plus tard, et également Psycho, qui est la compilation à la volée. Donc en fait, PyPy essaie de regrouper un peu toutes ces fonctionnalités dans un seul projet, parce que le problème de Jython et d'Iron Python, c'est qu'ils évoluent chacun de leur côté, ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que s'il y en a un qui va implémenter Python 2.5 ou Python 3000, eh ben, l'autre ne l'aura pas. Il y a une question au fond? Oui. Comment Python? Je ne connais pas. Comment? Pi Perl. Je connais pas ce truc. C'est pour convertir du Python en Perl. Je pense pas que ça rentre dans ce cadre-là, non. Parce que Jython et Iron Python, c'est pour exécuter du Python dans les JVM ou .NET. Et là, tu me parles de rentrer du Perl dans le Python, c'est pas pareil. Et je pense qu'avec un projet tel que PyPy, qui est capable de traduire un langage dans un autre langage, ce qui est le principe d'un compilateur ou d'un interprète, on pourrait peut-être arriver aux mêmes fonctionnalités, mais j'en doute parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait.
Là, je parle de langages qui sont embed, en fait, si tu veux, oui. Comme embed du Perl dans du C ou du Python dans du C, etc. Mais là, je sais pas, Iron Python, c'est embed du Python dans du .NET, en fait.
Oui.
C'est pas de l'embed, c'est juste...
Par exemple, si tu faisais un back-end de PyPy pour Paro, il me semble d'ailleurs qu'il y a des gens qui voudraient le faire mais qui ne l'ont pas fait, on pourrait mélanger du Python et du Perl aussi à ce moment-là, je pense.
Okay. Si j'ai bien, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas, mais c'est un peu le pendant à la machine Paro en Perl, le Python qui va être une couche d'abstraction sur, sur tous les moyens de dialogue avec les autres langages. Ouais.
C'est-à-dire que .NET, la finalité, c'est de pouvoir mélanger du Visual Basic, du C Sharp, il y a du F Sharp, etc. Java qui intègre aujourd'hui JRuby et qui a également le Jython, et Paro qui essaye de ramener les gens de, je crois, Prolog, Smalltalk et des trucs du genre. Donc c'est un petit peu le même style, mais sauf qu'ils n'ont pas l'ouverture et surtout ils n'ont pas les compétences pour les gens qui le codent. Donc aujourd'hui c'est quand même très ciblé sur les types en mémoire, qui va appeler les méthodes, etc. Donc c'est un sous-ensemble de Python qui a beaucoup de contraintes, c'est en gros les mêmes contraintes que Java, c'est-à-dire qu'il y a un seul type par variable, il faut faire l'allocation de mémoire manuellement. En Java, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a beaucoup de contraintes et c'est juste fait pour PyPy. Oui. Les auteurs de PyPy, au sujet de RPython, ils disent que c'est un langage qui est dédié à l'écriture d'interprètes, mais surtout ne l'utilisez pas pour vos propres projets perso. C'est-à-dire c'est bien pour écrire des interprètes qui vont créer des types, appeler des fonctions, etc. Mais c'est tout, quoi.
Donc ceux qui l'ont défini, ils ont dit si vous voulez l'utiliser, mais en dehors de PyPy, à ta connaissance, c'est pas utilisé.
Ouais, mais les auteurs disent que c'est très très pénible de coder avec, il n'y a aucun intérêt, quoi. Okay. Alors une des fonctionnalités, des innovations qu'il y a eu dans PyPy, c'est l'évaluation paresseuse, c'est-à-dire que typiquement dans une la valeur. Donc là, on va appeler la fonction f avec un wrapper. Et c'est lorsqu'on va demander à afficher la valeur de x qui seulement la fonction f va être appelée. Donc ça, c'est par exemple une des fonctionnalités qui a été introduite par PyPy. Et c'est justement là qu'on voit l'intérêt de PyPy, c'est que faire ça dans C Python, ce serait impossible. Il y a tellement de code, tellement d'existants que ce serait très difficile de rajouter ce genre de fonctionnalité. Oui, une question derrière ? Mais disons que là, c'est très générique, c'est-à-dire que tu fais juste un wrapper et il y a toutes les méthodes qui vont être wrappées, c'est-à-dire si tu demandes le type de la variable, si tu demandes à la convertir en chaîne de caractères, si tu fais une addition, si tu la copies dans une autre variable, tout ça, ça va être des... Tout va être wrappé d'un seul coup. Et ça, ça se fait très très facilement. Je reparle après des espaces d'objets en le verra en détail. Oui. C'est un framework pour écrire des interprètes.
Ouais. C'est un framework pour écrire des interpréteurs, mais moi j'ai toujours entendu dire que le langage purement fonctionnel était largement plus adapté à écrire des interpréteurs que les langages impératifs comme on utilise, comme le Python par exemple. Alors. Est-ce que c'est juste un projet pour créer des interpréteurs dans un langage impératif? Ou alors, est-ce qu'il y a
tu
d'autres...
Tu parles du langage qui est interprété par PyPy, hein.
Ouais.
Le langage source. Bah, ils ont écrit un interprète pour Python, mais il y a des projets aussi, il me semble, pour Prolog. Et je crois aussi pour Smalltalk.
Ouais, mais le truc, c'est que... J'ai l'impression, le fait d'écrire les interpréteurs, c'est beaucoup plus facile à écrire dans les langages fonctionnels, quoi.
J'ai l'impression quand même qu'il y a très peu de gens qui codent en fonctionnel et peu de gens qui ont les compétences, donc c'est peut-être ça qui les a motivés à Python, que c'est au niveau de l'impératif, c'est le langage qui les séduisait le plus.
En même temps, les gens font pas des compilateurs tous les jours non plus, donc.
Écrire un compilateur en OCaml, par exemple, qui a un langage fonctionnel et impératif, c'est, ça reste quand même d'une simplicité assez énorme.
Je vous mets au défi d'écrire un interprète de Python, parce que c'est quand même autre chose. C'est très très compliqué d'écrire un interprète.
C'est quand même plus simple dans un langage fonctionnel que dans un langage impératif. C'est juste pour compléter la question, j'avais pas de question sinon.
Il y a quelqu'un sur IRC qui demande qu'est-ce qu'il en est du coup du giant lock et des problèmes de trading sur plusieurs cores.
Eh ben, je lui en veux d'avoir posé la question. parce qu'en fait, à ce que j'ai compris, il sera toujours là. Enfin, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le giant lock, en gros, on a toujours dit que Python sait faire des threads, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'il exécute des threads, mais un par un. Dès qu'il y en a un qui a terminé son travail, c'est le deuxième. Il n'y a pas d'exécution parallèle. Ça, c'est un choix d'implémentation qu'ils ont fait pour gagner de la simplicité au niveau de l'écriture du code de ces Python. Et il y a mon écran qui fait des conneries. Et il me semble que dans PyPy, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi un giant lock pour des histoires de simplicité. Et j'avais lu une discussion de Guido, l'auteur quand même de ces Python, qui disait qu'un jour quelqu'un va essayer de le supprimer, le giant lock, et finalement c'était plus lent qu'avant. Donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui on a des processeurs avec 2 cœurs, voire 4 cœurs, Intel a fait un prototype avec 80 cœurs. Peut-être que dans des cas comme ça, le giant lock aurait une raison de disparaître. Maintenant, je pense quand même que des projets comme PyPy permettraient plus facilement de supprimer des contraintes qui sont fortement ancrées dans l'interprète comme dans ces Python. Alors, j'en étais où l'évolution. Ouais, c'est bon. Les proxys transparents, qui est une autre utilisation des espaces d'objets. L'idée, c'est de pouvoir observer les opérations faites sur un objet. C'est-à-dire qu'on va wrapper un objet et on va pouvoir voir ce que je disais avant, lire le type, faire une addition, faire une conversion, n'importe quelle opération, on peut la loguer. Mais on peut également remplacer l'opération qui est faite dessus. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'utiliser un objet, mais on va chercher un autre objet autre part, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si on a 10 et qu'on en additionne à 2, on peut enlever la valeur 42 si on veut, quoi. Et une des utilisations, ce serait par exemple de faire de la transparence réseau, c'est-à-dire qu'on utilise un objet comme s'il était en local, alors qu'en fait, il est sur un interprète PyPy distant. Et à ce moment-là, on pourrait synchroniser les deux ensemble. Ce serait une manière, en fait, de faire des clusters de Python assez simplement. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalité qui est proposé par PyPy. Sinon, les coroutines de stackless, c'est un truc que j'ai toujours pas compris, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, en gros, c'est qu'on exécute une fonction qui va faire un calcul assez long, et au milieu de la fonction, on dit « j'ai telle donnée qui est calculée, je te la donne », et on va rendre la main à l'interprète qui va passer le temps CPU à une autre fonction qui va récupérer le résultat. C'est par exemple quand on a... C'est ce qu'on apprend à l'école quand on gère les threads, qu'il y en a un qui génère des données, un écrivain et l'autre qui lit le lecteur. bah, l'écrivain va remplir un, ce qu'ils appellent un channel, et le lecteur va lire le channel. Et lorsque l'écrivain écrit, il rend la main, et le lecteur, une fois qu'il a des données, il va être éveillé. Donc c'est pour ceux qui connaissent Twisted, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est du calcul parallèle, mais sauf qu'on rend manuellement la main. Donc finalement, il y a une seule fonction qui est exécutée à la fois. Et Stackless, l'intérêt, c'est que ça marche sur n'importe quelle fonction, les coroutines. Et donc, il y a les tasklets et les channels qui permettent d'endormir et réveiller une fonction. Et en Python, on a une chose assez similaire qui sont les générateurs, mais sauf que les générateurs ne fonctionnent qu'à un seul niveau. C'est-à-dire qu'une fonction, elle ne peut pas appeler une sous-fonction qui va appeler une sous-fonction. Et on peut également sérialiser une coroutine et la cloner sur le réseau. Et pour vous donner un cas d'utilisation, c'est quand on a un arbre avec 1000 résultats possibles. Si on fait une fonction qui va évaluer les 1000 branches différentes, ça prendra pas mal de temps. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on divise le problème en 10 et qu'on va sérialiser la coroutine, et chacun va faire un calcul sur un ordinateur différent. Et donc automatiquement, ça va distribuer le calcul. Et après, Stackless s'occuperait de rapatrier les résultats pour voir quelle branche est la plus intéressante. Au niveau des optimisations, parce que quand même un des buts de PyPy c'était de gagner en performance, c'est l'inlining des fonctions, c'est-à-dire que quand on a une fonction très simple qui fait juste une addition ou juste retourner une chaîne, plutôt que le fait d'appeler la fonction, copier le résultat, etc., on va juste copier le contenu de la fonction dans le corps de l'appelant. Et par exemple, si c'est une addition, on va simplement recopier l'addition, et ça évite de faire un appel de fonction, une chose qui est assez coûteuse en Python. Et pareil, à la suppression des allocations mémoire, c'est que dans ces Python, on a toujours il faut incrémenter, décrémenter le compteur de référence. Et souvent, c'est assez bête parce qu'on le fait à l'entrée de la fonction et on le décrémente à la sortie de la fonction. Donc on crée un objet temporairement le temps de l'exécution de la fonction. Donc dès qu'on sort, l'objet est détruit. Donc en fait, ça sert à rien d'allouer sur le heap, sur la pile. Il vaut mieux le faire sur la pile de la fonction. Ce qui se fait simplement en incrémentant un compteur d'assembleur. Et les structures typées, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise souvent des dictionnaires avec comme clé une chaîne de caractères. Je vais me couper. Et au niveau des chaînes de caractères, bah, on peut optimiser la structure pour que les accès en lecture-écriture soient beaucoup plus rapides, sachant qu'on connaît déjà le type. Donc pareil, on peut faire des listes qui ne contiennent que des entiers, on peut faire des listes qui contiennent que des dictionnaires, etc. Donc ils peuvent créer des structures de données optimisées. Donc je vais accélérer sur la fin. Ce qu'ils ont testé ici, c'est le ramasse-miettes, c'est la manière de gérer la location mémoire. Bah, ils ont testé Bohème, ils ont testé un compteur qu'ils ont écrit eux-mêmes, ils ont testé un compteur générationnel, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tester différentes implémentations, ce qui n'est pas possible avec ces Python. Pareil pour les nombres entiers, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est au lieu de créer un objet qui contient la documentation du type int, une référence vers le type int et finalement la valeur, ils stockent la valeur dans le pointeur de l'entier. Ce qui permet d'éviter une allocation de mémoire et des opérations coûteuses. Donc ils ont fait des expérimentations dans ce genre-là. Et pareil pour les chaînes de caractères, il y a trois implémentations différentes. Là, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc pour les back-ends de PyPy, c'est-à-dire... PyPy, l'interprète lui-même, peut être compilé en C sur LLVM, qui est également une forme de machine virtuelle ou d'interprète qui est capable de faire des optimisations très très poussées au niveau de, pas uniquement d'une fonction, mais d'un groupe de fonctions avec une profondeur assez importante. Et là, il y a un mot qui est parti, mais c'est le CLI.NET et la JVM, donc on peut tourner sur les deux. Et il y a également des tests sur JavaScript et Squeak. Au niveau de la compilation à la volée, c'est-à-dire qu'on peut prendre un code Python et le traduire en langage machine, ce qui évite de passer par l'interprète, on gagne énormément de performance. Donc les performances sont similaires à Psycho actuellement, et l'avantage c'est qu'on peut gagner énormément en portabilité, PowerPC, 64 bits, etc. Mais c'est encore en développement. Les bacs à sable, c'est qu'on peut exécuter un programme Python avec des fonctionnalités limitées. C'est souvent quand on rapatrie un script d'Internet, on va lui limiter les fonctions sur le disque dur, le réseau, etc. Donc c'est un peu un bac à ça pour tester une application. Ce qui peut être pratique, par exemple dans Blender, quand on va charger un plugin, on veut pas qu'il lise nos fichiers sur le disque dur. Ça c'est une des utilisations qu'ils ont faites aussi. Et il y avait de la programmation logique, mais le projet a été abandonné. Et pour information, c'est un projet publié sous licence MIT et développé sous forme de sprint à peu près tous les deux mois. comme ce qui se fait actuellement dans la salle d'à côté. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il en reste, donc tu peux venir après sur la table. Il n'y a pas de souci.
Donc j'aurais juste une question. C'est au début, au tout début, tu parles qu'il y a la, donc on perd en performance entre un facteur 1,5 et 3. Oui. Et ensuite tu dis qu'il y a de l'évaluation paresseuse dans la machine virtuelle. Et est-ce que
là c'est explicite quand tu fais de l'évaluation paresseuse, c'est toi qui dis je fais une évaluation paresseuse. C'est pas automatique.
Ah c'est pas d'accord, ok. Sinon, c'était
c'était justement. Okay. On fait un appel à l'objet func juste ici. Donc on wrap explicitement l'appel. Mais je pense qu'au niveau performance, le compilateur à la volée va tout exploser le jour où ça marchera vraiment. Et là, ça va pas être un facteur 1,2 plus lent, mais ça va être 10 fois plus rapide. Quoi. Voire ou 2 fois plus rapide, je sais pas. Mais je pense que vraiment, il y a un très très gros potentiel de ce point de vue-là.
C'est moi déjà. Souvent, quand j'écris du code en Python et que je veux le rendre plus rapide, c'est assez simple pour moi, une bonne partie, de le convertir en C. Est-ce que pour PyPy, vous n'avez pas envisagé de convertir la partie qui est traduisible en C et de garder le reste en Python ? Garder la partie RPython du code Python qu'on a écrit et ça le traduire en C ? Et dans le C, intégrer l'interpréteur Python pour interpréter ce qui est plus compliqué.
Il me semble que c'est ce qui est fait.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que l'interprète lui-même est compilé en C. Mais par contre, ce qui n'est pas possible actuellement, c'est d'un code Python de le compiler en C. Je ne sais pas si c'est clair.
Non, pas trop.
Ouais, vous me verrez après, sinon, puisqu'il y a d'autres conférences qui arrivent derrière. Il y avait d'autres questions, sinon ? Je vous remercie pour votre attention.